Les jardinières.
Bonjour tout le monde et bonjour Eileen.
Mais bonjour Stéphanie. Ce matin, nous avons le plaisir d'accueillir Philippe Detra, horticulteur à Neufchâtel. Bonjour Philippe. Philippe,
est-ce que vous êtes là? Alors Philippe n'est pas là, mais que se passe-t-il?
Vous avez allumé son micro, Stéphanie?
Mais oui, j'ai bien mis son micro, c'est très très bizarre. Philippe, est-ce que vous êtes là?
Bon...
Écoutez, hein, on va dire déjà que c'est les saints de glace qui sont officiellement passés, que nos fleurs et nos plantes peuvent être rassurées.
Voilà.
Est-ce que vous êtes là,
Philippe? Bonjour.
Voilà.
Philippe qui est en direct de notre studio à Marin, donc on espérait que la connexion s'est bien faite, et en effet la connexion s'est bien faite. Bonjour
tout
Philippe.
Bonjour à tous.
Nous voici rassurés, mais je disais donc que les plantes, elles, ne sont pas rassurées, Philippe, parce que les saints de glace, même qu'elles sont passées, il y a quand même quelques petits désagréments de la météo. Mais c'est pas grave, dans les jardinières, on a bien l'intention de braver les intempéries et de faire venir le soleil. D'ailleurs, on s'est levé de bonne heure pour vous souffler plein d'infos jardinage.
Et surtout répondre à toutes les questions que vous vous posez concernant votre jardin, hein, durant la semaine. Nos sites internet vous permettent de nous envoyer vos questions via le formulaire. Et ce matin, si vous avez des questions à nous poser et surtout à poser à notre professionnel qui est là jusqu'à 8h, vous avez plusieurs possibilités, hein. Soit vous nous écoutez en direct de votre ordinateur et du coup, le formulaire se trouve toujours encore à disposition sur votre site internet. Ou alors, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et n'oubliez pas non plus l'option SMS. Vous tapez tout simplement le mot jardin, suivi d'un espace et de votre question, et vous nous envoyez tout cela au 939.
Vous êtes chez Les Jardinières. Bienvenue, nous sommes ensemble jusqu'à 8h.
Les Jardinières.
Et nos auditeurs n'ont pas chômé, Eileen. Cette semaine, il y a Jean-Marc de Reconvilliers qui est en froid avec son bananier.
En effet, Jean-Marc nous a contactés car cela faisait des années qu'il entretenait son bananier. Il était florissant, ses feuilles étaient nombreuses et plusieurs nouvelles pousses avaient même vu le jour. Le problème est que depuis quelques mois, avec le même entretien, les feuilles ont séché et le bananier semble mourir. Faut-il changer la terre? C'est la question qu'il nous pose. Ou est-ce qu'il y a moyen que ce bananier reprenne du poil de la bête, Philippe?
Alors, dans le cas du bananier, c'est pas une plante que je connais vraiment beaucoup, mais j'en ai eu dans la serre à l'école où j'enseigne. Et en fait, la plante, lorsqu'elle a fleuri et donné des bananes, va mourir, mais auparavant, elle aura eu le temps de faire des petits rejetons. Donc, il faut plus trop compter sur la plante principale, la plante de base qui va mourir, mais s'occuper plutôt des bébés qui ont poussé à la base.
Mais alors, il faudrait les enlever du pot et puis les mettre dans un autre pot, vous pensez?
Alors, nous, dans la serre, on y allait carrément à la scie, donc on sabrait carrément le gros tronc du bananier qui avait donné des fruits et des fleurs. Et puis voilà, après on le laissait, mais il peut aussi tout à fait sortir la motte du pot et le fractionner en différents petits plants, en faisant attention de toujours garder un petit bout de... Enfin, que chaque pousse ait des racines. Et okay. Ensuite, il va multiplier ses bananiers de cette manière.
Donc, ils ne sont pas tous reliés ensemble par des racines. Donc, si on les sépare, on ne sépare pas la famille. Il n'y a pas de drame.
On va séparer la famille, mais... chaque bébé aura des racines normalement, donc va redonner une nouvelle plante.
Eh bien, nous avons une autre question par SMS, Eileen, hein, c'était Ernest de Delémont qui nous a écrit au 939. Et puis, il nous demande quelle est l'efficacité d'appareils solaires qui émettent des vibrations souterraines pour chasser les souris. Alors déjà, est-ce que vous connaissez, Philippe, ces appareils? Et si oui, est-ce que vous le recommandez?
Alors, je vais être clair, je ne connais pas cet appareil. J'ai utilisé dans mes serres des appareils à ultrasons pour éloigner les souris qui s'attaquaient à mes graines de courge, piment, poivron et autres. Ça a une efficacité moyenne, disons. Même avec l'installation de deux ultrasons dans la serre, des trappes à souris, eh ben on a quand même eu quelques dégâts. Mais l'appareil en lui-même, je ne le connais pas, celui-là.
Et y a-t-il donc un moyen peut-être plus naturel pour chasser les petites bêtes qui viendraient déranger nos plantes?
Moi, je pense que c'est quand même une méthode douce. Voilà. Ça nous évite de...
Ça ne fait pas du mal à ces petites souris.
Oui, on s'inquiète un peu pour les souris.
Ça les éloigne parce qu'elles n'aiment pas ça. Donc, elles vont voir ailleurs.
Donc elles ne souffrent pas.
C'est voilà, ce qui nous intéresse pas, un petit peu. Je pense pas, mais je suis pas une souris.
Ouais, faudrait leur demander, on sait jamais. Il y a aussi Séverine de Porrentruy qui nous a écrit, puis elle nous demande quelle association de fleurs va le mieux ensemble pour mettre dans des pots allongés sans qu'une prenne le dessus sur l'autre, sans qu'une sorte prenne le dessus sur l'autre.
Ok, donc c'est vrai qu'il y a quelques plantes qui ont un développement plus important que les autres. Mais ce qu'il faut surtout, c'est, à mon avis, on peut mettre tout ce qu'on veut ensemble. On avait des a priori à peut-être 20 ans, 30 ans. On ne met pas de rouge avec du rose ou de l'orange, etc. Honnêtement, j'ai un petit peu tout expérimenté. On peut tout mettre ensemble, ou presque tout. Ce qu'il faut juste respecter, c'est les distances entre les plantes. Souvent, on a tendance à les mettre un petit peu trop serrées. Et celles qui ont un grand développement vont passer par-dessus les autres, donc les étouffer.
Donc, par exemple, si on choisit de mettre du lierre dans un pot avec d'autres fleurs, est-ce que ça risque d'étouffer les autres
fleurs ? Possible, mais ça dépend de la distance. Et puis de ce que l'on leur donne à manger, maintenant le sécateur existe, donc il est tout à fait possible de réduire de temps en temps un petit peu la taille de certaines plantes.
Très bien, merci beaucoup Philippe.
Merci beaucoup Philippe de répondre justement à toutes les questions des auditeurs, des questions qu'on attend d'ailleurs par téléphone. Hein, si vous avez une question à nous poser, ça se passe au 0901 70 20 20 pour 36 centimes à la minute. Ou alors, comme ces nombreux auditeurs, vous pouvez également nous envoyer un SMS. Vous tapez le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question. Et vous nous envoyez tout ça au 939. On y répond juste après une petite pause musicale.
7h, 8h, les jardinières.
Vous êtes donc chez les jardinières qui sont là pour répondre à toutes vos questions en compagnie de Philippe Detra, horticulteur à Neuchâtel. Les questions, vous pouvez nous les poser soit par SMS, vous tapez le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question, et vous nous envoyez tout cela au 939, ou alors pour poser directement votre question là, en direct, par téléphone, ça se passe au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Et d'ailleurs, on a reçu une question par SMS, Stéphanie.
C'est Jean-Marie de la Neuville qui s'est procuré un rosier et puis il s'apprête à le planter. Seulement, il hésite entre le planter dans sa plate-bande, hein, donc vraiment un peu à côté du gazon, ou dans un pot. Qu'est-ce que vous lui conseillez, Philippe ?
Alors, pour moi, c'est clair que s'il a le choix, c'est plate-bande. La plante sera beaucoup mieux en pleine terre que dans un pot. Maintenant, s'il n'a pas d'autre solution, ou s'il veut le disposer à un autre endroit, sur une terrasse, un balcon, il vaudrait mieux, dans ce cas-là, qu'il choisisse un pot pour adultes, c'est-à-dire un pot relativement grand, de façon à ce que le rosier soit à l'aise.
Parce qu'un rosier, ça prend relativement beaucoup de place au niveau des racines, ou comment ça se passe exactement?
Oui, alors c'est une plante qui a un bon système racinaire, donc qui il faut de la place, quoi. Comme on doit imaginer que lorsqu'on met une plante en pot, on devrait le mettre comme dans une situation de pleine terre. Voilà, donc ça donne un petit peu l'idée du pot.
Et puis, j'avais juste encore une petite question par rapport à ce rosier. Est-ce que c'est une plante qui revient chaque année, un rosier, ou c'est comme les autres plantes, on va dire les petites fleurs de printemps qui, après une saison, on va dire, on ne peut plus vraiment les faire revenir?
Est-ce que, il va pas revenir parce qu'il ne va pas partir. Donc, il va, ce que vous entendez par revenir, j'imagine, c'est redonner des...
Voilà.
redonner des branches l'année suivante.
Bah oui, ça part pas en courant, hein, Rosie, voilà. J'imagine.
ça, c'est mes petites expressions jurassiennes.
Non, effectivement, ça va redonner des fleurs chaque année. Ça, c'est sûr, c'est une plante qui est rustique, qui tient très bien au froid. Donc là, il n'y a pas de problème.
Et Stéphanie, on a un appel d'une auditrice qui est avec nous. Bonjour, qui est avec nous ?
Bonjour, je m'appelle Fran.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Et puis, j'ai une question à poser. J'ai des plantes qui rampent, hein, et puis il y a comme des larmes au bout de la feuille. C'est normal ?
Comme des larmes.
Ou bien c'est quand il me voit qu'il pleure, je sais pas.
Des larmes. Bon, hier, il y en avait beaucoup, des larmes,
gouttes,
avec le temps qui
vient. C'est comme de la feuille.
Mais c'est des gouttes complètement liquides ou elles sont un peu dures?
Comment? Non, c'est comme une larme, une goutte d'eau.
Ouais, c'est au bord de la feuille.
Mais transpire.
Oui, donc c'est au bout de la feuille.
Oui, tout à fait. Donc c'est ce qu'on appelle Oh là là, j'ai un petit blanc. Alors, en fait, la plante, quand elle va très bien, quand elle est dans des super bonnes conditions, qu'elle a suffisamment mangé, qu'elle a suffisamment de chaleur, qu'elle a suffisamment à boire, elle peut évacuer une partie de sa sève par des stomates, c'est les pores de la plante. Et certaines plantes ont des stomates qui sont justement au bord des feuilles, de façon à évacuer ces excédents de sève. Donc, en principe, tout va bien.
Quelle bonne nouvelle. Au moins les plantes.
Vous êtes rassurés,
frère. L'alchimie, elle fait ça. Et puis certaines plantes vertes d'appartement, comme les philodendrons, les Diefenbachia, certaines plantes, lorsque elles font ces gouttes, montrent qu'elles vont bien. Ce qui peut être un petit peu ennuyeux si ces plantes sont disposées sur des parquets ou des tapis, parce que
ils sont
bons de la fenêtre,
en pleine lumière.
Ouais.
Voilà.
Donc c'est bon signe, tout va bien.
Donc tout va bien finalement.
Et puis une autre question si je peux.
Mais bien sûr.
Alors, et surtout à côté des orchidées. Et puis ça risque rien, je veux dire.
J'ai pas tout compris là. Si vous pouvez répéter,
si vous mal exprimé. Donc sur le même bord de fenêtre, j'ai des orchidées.
Oui.
Voilà. Puis ils ont un petit souci ces orchidées. Il y a des fleurs et tout. Mais les racines, ils sèchent complètement.
Les racines, carrément.
Alors, les racines, je pense que vous pensez à des Phalaenopsis, qui sont des orchidées assez courantes. Excusez-moi. Donc ces racines, ces orchidées-là sont des plantes qui sont épiphytes dans leur pays d'origine et elles sont équipées de racines qui sont dans l'air pour capter l'humidité de l'air. Si ces pots d'orchidées, qui ont souvent des pots transparents, sont exposés trop au soleil, eh bien effectivement ça peut les griller. Donc c'est peut-être ça, ou peut-être un manque d'eau peut-être, mais faut imaginer que ces plantes dans leur pays, elles vivent sur des arbres, avec des racines aériennes, dans une forte humidité, avec une forte hygrométrie.
D'accord.
Merci beaucoup, Fran.
Mais c'est moi qui vous remercie.
Merci d'avoir téléphoné.
Je vous souhaite une bonne journée, un week-end.
À vous aussi, belle fin de journée.
Au revoir.
Au revoir.
On vient de recevoir un SMS aussi, Stéphanie, un SMS qui nous vient de Fabienne, de Salvo, et qui nous demande « J'ai un très vieux rosier qui produit des roses très parfumées. Comment puis-je faire des boutures ou autres pour reproduire cette souche ?» Philippe, vous avez une idée ?
Eh ben non, parce que je ne suis pas rosieriste. Voilà. Non, je pense que si j'essayais, je ferais des boutures comme n'importe quelle bouture, mais honnêtement, non. Je pense que cette dame a tout intérêt à s'adresser à un rosieriste qui va probablement et gentiment lui donner les trucs et combines. Personnellement, j'ai voulu multiplier un rosier qui était très cher à mon papa. Et je me suis approché d'un rosieriste. J'y ai téléphoné, j'y ai amené des branches et il m'a fait des greffes qui sont beaucoup plus sûres que des boutures.
Donc ça veut dire que
ça marche, mais la plante est moins solide.
C'est très délicat donc.
Ouais, c'est un métier à part. Je suis désolé, mais je ne suis pas compétent au niveau rosier.
Mais c'est pour
Fabienne. C'est un conseil tout à fait honorable que vous avez donné à Fabienne.
Mais c'est possible.
C'est possible. Alors, c'est possible.
Ça, c'est déjà une bonne nouvelle pour Fabienne. Hein. Alors, on est dans les jardinières jusqu'à 8h. On va faire une petite pause musicale, météo et inforoute. Mais juste avant ça, je vous rappelle que vous pouvez donc nous appeler pour poser vos questions au 0901 70 20 20 pour 36 centimes à la minute. Ou alors, vous pouvez nous envoyer un petit SMS. Vous tapez tout simplement le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question. Et vous nous envoyez tout ça au 939. On y répondra d'ici quelques minutes, toujours encore, en compagnie de Philippe Detra.
A tout de suite.
Les jardinières.
Jusqu'à 8h, vous êtes bien installés chez les jardinières. Ce matin, Philippe Detra, horticulteur à Neuchâtel, répond à vos questions. Alors n'hésitez plus d'ailleurs, Eileen, comment peut-on faire pour poser une question jardinage ce matin ?
Alors, soit vous nous envoyez un SMS, vous tapez tout simplement le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question, et vous nous envoyez tout cela au 939, on lira votre question en direct et Philippe sera là pour y répondre. Ou alors, vous nous appelez au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute, comme vient de le faire Georgina. Bonjour.
Oui, bonjour. Voici ma question.
Bonjour.
J'ai un figuier qui est actuellement dans un pot et j'aimerais savoir à quelle est la meilleure période où il peut être mis en terre. Parce qu'actuellement, en fait, il met des feuilles encore.
Ok. Donc, en fait, la plantation d'un figuier, ça se fait soit au printemps, soit en automne. Au printemps, c'est très bien. C'est très bien maintenant. Il faudrait le faire avant les grandes chaleurs, de toute façon.
Ah, et vous êtes
à quelle altitude ? À quelle altitude ?
450.
Ok. Donc, à peu près comme Neuchâtel. Il n'y a pas de souci. Oui. Moi, j'ai une centaine de variétés de figuiers qui sont plantées. Donc, vous pouvez planter, vous arrosez à fond les manettes. Oui. Et puis, vous le surveillez pendant une année. Lorsqu'il y a des périodes sèches, faut bien arroser, mais vraiment, c'est 10, 15, 20 litres, 30 litres, mais pas tous les jours. De façon à ce
D'accord.
que l'eau descende et puis que la plante comprenne que l'eau, elle est en bas. Si vous l'arrosez trop souvent avec un petit peu d'eau, les racines vont rester en surface, puis elles attendent. Et lorsque vous aurez une période de sec, la plante va souffrir.
D'accord, je comprends.
Dépêchez-vous de planter, c'est le bon moment. Voilà.
Et oui. Un figuier, donc ça fait
Entendu.
Des fruits. Donc vous avez bien compris, hein, Georgina ? Tout de suite,
oui,
voilà. Ouais. Moi, je voulais savoir quand même si un figuier, ça faisait des fruits tout de suite, ou si c'était un arbre qui prenait du temps à donner des fruits.
Ça donne des fruits assez rapidement. Disons, oui. La première année, il ne faut peut-être pas trop rêver, mais dès la seconde année, vous pouvez avoir déjà des figues. Et j'ai même des boutures, parfois, qui font des figues avant même des racines. Donc la plante, elle est assez incroyable.
Oui, la première année, j'ai eu 400 figues.
Ouais.
J'étais très étonnée du reste.
Oui, ouais, ouais, ça donne très vite.
Eh bien, merci d'avoir téléphoné, Georgina.
Et à bientôt, oui, donnez-nous des nouvelles du figuier. Hein. On attend.
Voilà, merci. D'accord.
Bon appétit.
Merci beaucoup.
Belle journée. On a Corinne qui nous pose la question, à quel endroit idéal doit-on planter de la rhubarbe ? On reste dans les fruits, mais là, ça concerne la rhubarbe, Philippe.
Enfin, je crois que la rhubarbe, elle est considérée comme un légume, si je ne me trompe
C'est
pas,
vrai
non ? C'est pas un fruit à proprement parler.
C'est ce qu'on appelle un légume-feuille, dont on va manger une partie des feuilles, donc les côtes. Vous avez de la chance, je m'intéresse à la rhubarbe depuis 2 ans, mais mes parents avaient beaucoup de rhubarbe qu'ils cultivaient pour les vendre au marché. Actuellement, on n'en a plus, mais ils en avaient au soleil et à mi-ombre, de façon à échelonner la production. Donc, faut pas oublier que la rhubarbe, c'est une plante qui doit manger, comme toutes les plantes. Donc, on a tendance à oublier que cette plante doit vivre d'amour et d'eau fraîche. Ça suffit pas et pas trop longtemps. Donc, un petit peu de compost, rajouter du compost, rajouter un petit peu d'engrais. Et surtout, lorsqu'on plante la rhubarbe, ne pas la toucher durant 2 ans.
Attends.
Sinon, vous l'épuisez. Ça, c'est monstre important.
Ben alors, c'est vrai que... Donc Corinne, si elle va planter de la rhubarbe, là tout de suite, elle devra attendre au moins 2 ans jusqu'à ce qu'il y ait quelque chose de
exactement.
qui en sorte.
Et puis elle peut aussi couper les inflorescences, donc la tige qui va porter les fleurs, de façon à économiser la plante.
Il faut être très très patient donc avec la rhubarbe.
Et oui.
Et puis je ne savais pas que c'était ce n'était pas un fruit. Eileen,
on en apprend tous les jours des choses.
C'est impressionnant
Stéphanie,
tout ce qu'on apprend dans cette émission des jardinières.
On a une question qui nous vient par rapport à l'émission de la semaine dernière, mais je pense que Philippe, vous avez peut-être une réponse à cette question. La semaine dernière, Stéphanie et Sandra, vous parliez apparemment d'un produit qui pouvait lutter contre les vers, fil de fer, avec un produit justement où est trempé dans les salades, si je ne me trompe pas. Ça vous dit quelque chose, Stéphanie ?
Ça me parle un petit peu. En effet, on avait parlé de ça et apparemment, quelqu'un n'a pas trouvé ce produit, n'est-ce pas ?
Exactement. Donc, je ne sais pas, Philippe, si vous connaissez un produit justement pour faire partir justement ces vers fil de fer. Ça vous dit quelque chose ?
Alors, au niveau chimique, il y en a sûrement tout plein, mais vous allez empoisonner votre sol. Maintenant, il faut savoir que le vers fil de fer n'est pas un vers, mais une larve. la larve du taupin. C'est un petit doryphore, si on veut. Le taupin, c'est la petite bête qui se retourne d'un coup. Elle fait un petit saut lorsqu'elle est sur le dos, elle se retourne d'un coup. Et elle fait ses larves dans des sols qui sont peu travaillés. Donc il y a une solution relativement douce, c'est de bien travailler son sol, de façon à ce que ce qu'ils aillent voir ailleurs, tout simplement parce qu'ils aiment les sols durs. C'est pour ça qu'on l'appelle le verfil de fer. C'est parce que cette larve est extrêmement dure. Si on veut la couper en deux avec les ongles, on n'y arrive quasiment pas. Mais je connais pas de produits. On en trouve dans.
Mm-hmm. Oui, on en avait pas.
Chercher un peu sur internet probablement.
Donc la solution douce, c'est vraiment de travailler la terre, et ça pourrait déjà faire partir la plupart de ces verfils de fer.
Voilà.
Merci beaucoup. Et on a reçu un SMS, si je ne me trompe pas, Stéphanie.
Exactement, c'est Claude qui nous pose la question suivante. J'ai planté deux mûriers Loch Ness, il y a 5-6 ans. Ils vont bien et ils font pousser donc de belles mûres. Par contre, ils ne font chacun que deux nouvelles pousses par année qui atteignent 3 mètres de longueur. Est-ce que c'est normal? Parce que ça fait un peu maigre, il trouve, donc Claude. Est-ce qu'il faut que je plante encore un à deux mûriers ou est-ce qu'il faut apporter un engrais spécial? Il est bien exposé dans le gazon. Voilà, c'est la question de Claude. Philippe, est-ce que vous avez petits éléments de réponse?
Alors bon, en principe, non, ça me paraît assez normal. S'il est jeune, il va faire que peu de branches au départ.
Okay.
Donc le mûrier Loch Ness, c'est un mûrier qui n'a pas d'épines, sauf erreur, qui n'a pas d'épines. Donc c'est peut-être sympa pour les gens qui ont des enfants, de façon à ce qu'il ne pas se piquer, mais ça manque un petit peu de piquant, hein, je trouve. Maintenant, la taille, elle devrait enlever les branches qui ont donné des fruits. C'est comme ça qu'on pratique avec le mûrier.
Ah,
et puis si elle trouve que les branches sont trop longues, eh bien, elle les raccourcit. Elle les raccourcit jusqu'à la distance qu'elle... Voilà, la longueur qu'elle voudrait.
Donc
ensuite,
en fait,
la plante va se ramifier.
Une des questions de Claude, justement, c'était de demander est-ce que c'est normal, mais apparemment c'est complètement normal que cette plante-là ait ce processus-là.
Tout à fait.
Et parce qu'il avait l'air un petit peu frustré, justement, du peu de branches et du peu de fruits que ce mûrier donne, donc c'est tout à fait normal. Il est encore considéré comme jeune.
Probablement.
Merci beaucoup.
Philippe, vous êtes avec nous jusqu'à 8h. On attend les questions de vous, chers auditeurs qui nous écoutez. Vous pouvez nous les poser par SMS. Vous tapez le mot jardin, suivi d'un espace, puis de votre question. Vous envoyez tout cela au 939. Ou alors, vous pouvez encore nous appeler au 0901 70 20 20 pour nous poser la question en direct par téléphone pour 36 centimes la minute. On revient juste après quelques notes de musique.
Les jardinières.
Nous sommes encore ensemble pendant quelques minutes. Donc, si vous avez des questions à nous poser, si vous voulez des conseils personnalisés pour vos plantes ou votre jardin, c'est maintenant ou jamais. Vous nous envoyez un SMS en tapant le mot jardin, suivi de votre question, et vous nous envoyez tout cela au 939. Ou alors, vous pouvez nous appeler au 0901 70 20 20 pour 36 centimes la minute. Christine de Seignelay-Léger a une question pour vous, Philippe, car elle a un cactus de Noël. Un cactus déjà bien âgé qui a plus de 20 ans et il ne fleurit plus. Elle voulait savoir si elle pouvait faire quelque chose pour le sauver ou pour en tout cas le remettre d'aplomb.
Alors si cactus de Noël, il fleurit effectivement dans la période hivernale, ça peut être un petit peu plus tôt, un peu plus tard. Et en fait, il faudrait, pour l'amener à fleurir, il faudrait lui donner un petit coup de sec après la belle saison. Donc il fleurit mieux lorsqu'il a un petit peu soif, et c'est un tout petit peu le cas de tous les cactus d'ailleurs. Ils doivent pas avoir trop d'eau. Ça c'est le premier truc. Puis ensuite, beaucoup de lumière, parce que c'est une plante grasse, donc elle doit être exposée à un maximum de lumière. Maintenant, si elle a changé dernièrement le pot, eh bien c'est normal que la plante, elle se concentre sur plutôt une recrudescence de végétation, puisqu'elle a de nouveau à manger, donc elle va fleurir, mais plus tard, lorsqu'elle aura un tout petit peu faim.
Et justement, le cactus de Noël, c'est une plante qui peut justement se mettre chez n'importe qui. Il suffit d'avoir beaucoup de soleil et quand même un environnement assez chaud, c'est ça ?
Donc exposition au sud, en général, derrière une fenêtre, ça va très bien.
Eh bien, merci beaucoup. Je pense que tous les éléments ont été donnés. Et puis, nous avons reçu un SMS de Céline. J'ai une orchidée qui n'a plus de feuilles et les racines sont comme séchées. Alors, en sachant qu'elle s'en occupe comme les autres, qui, elles, ont plein de feuilles et de fleurs, qu'est-ce qu'elle doit faire ? Est-ce que cette orchidée, finalement, a un problème psychologique ou pas ? Justement, parce que cette orchidée-là, apparemment, a toutes ses feuilles et les racines séchées. Qu'est-ce qu'elle a fait faux ? Qu'est-ce qu'il faut faire, Philippe ?
Alors bon, je pense qu'il y a plus qu'un problème psychologique de la plante, parce que plus de feuilles, c'est probablement, elle doit être morte. Après, pourquoi ? Pourquoi ? J'en sais rien, donc ça peut être un excès d'eau, où les racines ont pourri, comme un manque d'eau, où les racines ont séché. Donc les résultats sont les mêmes, donc une fois qu'une plante n'a plus de racines vivantes, eh bien la plante meurt complètement. Donc là, je pense que c'est à elle de voir si il y a eu trop ou pas assez d'eau. Maintenant, les orchidées, on les met souvent dans des cache-pots, et ça, c'est pas franchement c'est plus joli, mais c'est pas franchement la bonne idée, parce qu'on gère mal le niveau d'eau qu'il y a dans le cache-pot.
Mais justement, j'avais une question par rapport à ça. C'est donc très négatif pour l'orchidée qu'il y ait un résidu d'eau, on va dire, au fond du cache-pot.
Oui.
Ok, parce que c'est vrai que souvent, on les arrose et puis on voit pas qu'il y a de l'eau au fond, donc c'est vrai que ça peut être une des causes. Donc il faudrait pas mettre de cache-pot.
Oui, vous pouvez, mais moi je suis comme tout le monde, je vais mettre un petit peu d'eau dans le cache-pot. Mais idéalement, il faudrait sortir le pot du cache-pot, le mettre dans l'évier, on mouille bien. On laisse épurer, on le remet dans le cache-pot. Ça, c'est l'idéal. Comme ça, il n'y a pas d'eau stagnante au fond du cache-pot.
Ouais, c'est vrai que c'est tout le temps un peu délicat avec les orchidées. Il y en a qui reviennent chaque année et d'autres qui ne reviennent jamais.
Voilà.
Est-ce que vous expliquez ça, qu'il y ait autant de différences peut-être entre des orchidées ?
Bon, alors, les orchidées, c'est le groupe végétal, la famille végétale où il y a le plus de genres différents. Maintenant, celles qu'on trouve dans les jardineries ou dans les magasins sont presque toutes des plantes tropicales. Donc, on les traite un petit peu toutes de la même façon, mais il y a énormément de selon les genres, il y a des conditions de vie différentes. Maintenant, ce qu'on trouve dans les commerces, elles ont presque toutes les mêmes demandes. Donc, comme je vous le dis, on mouille bien, on sort le pot, on mouille bien, on laisse épurer, on le remet dans le cache-pot. Ça, c'est l'idéal. On contrôle une à deux fois par semaine selon le temps qu'il fait, ou l'exposition, où elles sont.
Et des orchidées, on revient justement aux fruits et plus précisément aux myrtilles avec une question de Mélanie. Elle nous demande comment bien entretenir les myrtilles, par exemple fumure, taille, le soin, etc. Car elle en a planté il y a 5 ans, il donne très peu de fruits. Il lui semble en tout cas qu'il grandisse peu en plus de ça. Mais elle avoue qu'elle ne met pas d'engrais, Mélanie. Du coup, elle aimerait savoir s'il y a des recommandations d'engrais naturels pour peut-être donner plus de fruits et des fruits plus gros.
Ok, alors j'imagine que Mélanie pense à des myrtilliers américains. Donc c'est des arbustes qui ont une taille un petit peu comme les résines chez nous. Les myrtilles des Alpes, en principe, on n'en trouve quasiment pas dans le commerce. Donc c'est sûrement des myrtilles américains. C'est des plantes calcifuges. Donc qui n'aiment pas le calcaire. Donc lorsqu'on plante des myrtilles, il faudrait changer la terre et l'acidifier. On peut faire ça avec de la tourbe ou de la terre de bruyère. Et à côté de ça, évidemment, comme toute plante, elle doit manger. Donc il faudrait lui apporter un engrais pour petits fruits, ça on trouve facilement.
C'est un engrais naturel parce qu'elle aimerait quelque chose d'assez naturel ou ça sera un produit
Les engrais naturels, il n'y en a pas 5. Oui, il n'y en a pas beaucoup sur le commerce, mais c'est des engrais dits organiques. Mais faut pas. Je ne vais pas vous donner un cours sur la nutrition. Mais les engrais chimiques, eux, ont une efficacité immédiate lorsqu'on les donne aux plantes, parce qu'ils sont prêts à manger. Et les engrais organiques qu'on trouve dans le bio ont besoin d'être minéralisés par les bactéries qui sont dans le sol. Donc, c'est des engrais beaucoup plus lents, mais on trouve. Elle prendra simplement un engrais pour jardin qu'elle trouvera en bio.
On a encore une dernière petite question, Philippe, avant la fin de l'émission. C'est une personne qui souhaite planter un saule pleureur en plein sud. Alors, est-ce qu'elle doit le faire donc plein sud ou plutôt le planter à l'envers ? On me dit qu'il boit beaucoup. Donc voilà, la personne s'interroge sur la façon de planter un saule pleureur. Est-ce que vous avez une réponse rapide, Philippe ?
Alors, pas vraiment, parce que les saules pleureurs, c'est pas trop mon truc. Mais quand vous dites à l'envers, c'est pas la tête en bas, bien.
J'espère pas pour lui.
Bon, parce que ça ne va pas trop marcher.
Vous pensiez à les plans à l'envers, au nord.
Au nord, j'imagine, ouais. Oui, parce qu'elle a posé sa question comme ça.
Moi, je verrais plutôt au sud.
Plutôt au sud.
Et puis, c'est vrai que ça boit pas mal. Ça boit beaucoup.
D'accord, donc voilà, ben, je vous remercie beaucoup pour toutes ces questions, Philippe. L'heure du journal approche à grands pas, on va ranger nos bêches et nos râteaux. Merci de vous être déplacé, Philippe. D'ailleurs, pour les auditeurs d'RTN, hein, vous serez en direct dès 9h à la journée des plantes à Vaumarcus. Et puis les jardinières, on se donne avec Aileen rendez-vous la semaine prochaine. Mais en attendant, si vous avez une question durant la semaine, vous pouvez déjà nous l'envoyer, n'est-ce pas Aileen ?
Bah oui, toute la semaine, n'hésitez pas à nous poser vos questions. Hein. Dès que vous voyez que votre orchidée souffre ou que votre gazon est tout brun, allez par exemple sur notre site internet, remplissez le formulaire de contact qui se trouve sous l'onglet émissions. Vous nous envoyez tout ça et on y répondra samedi prochain. Ou alors, vous pouvez aussi nous envoyer un SMS hein, tout au long de la semaine. Vous tapez le mot jardin suivi d'un espace puis de votre question. Vous nous envoyez tout ça au 939. On traitera toutes ces questions samedi prochain entre 7h et 8h et ce sera à nouveau en votre compagnie, hein, Stéphanie.
Oui, exactement. On se retrouve, notre super duo, la semaine prochaine avec un autre professionnel du jardin pour répondre à toutes vos questions. D'ici là, je vous souhaite un très bon week-end à tous et à la semaine prochaine.
Bye bye.
Merci à vous.
7h, 8h, les jardinières.